Bonjour. Un mort à Montpellier, une mère de famille fauchée par une voiture. 74 interpellations dans toute la France. À l'issue du match de Coupe d'Afrique des Nations remporté par l'Algérie hier soir, les manifestations de joie des supporters ont dégénéré. Le foot, c'est pas ça, explique le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui dénonce des agissements inacceptables. Invité de ce journal, un historien spécialiste de l'immigration et de ses rapports avec le sport. Que des mensonges pour François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Les informations de Mediapart le concernant sont fausses et surtout malveillantes. Le ministre qui contre-attaque contre le site d'information en ligne.
Il va encore y avoir d'autres attaques, forcément, que ma femme, c'est Marie-Antoinette. La vie de château, c'est le fantasme des coupeurs de tête.
François de Rugy qui dit avoir reçu le soutien d'Emmanuel Macron dans la majorité. En revanche, c'est un soutien à minima qu'affichent beaucoup d'élus La République En Marche, comme nous le dira Yael Gauz. Dans ce journal également, le gouvernement qui temporise sur les retraites. Aucune mesure d'économie incitant les Français à travailler plus longtemps ne sera prise en 2020. Un gros bébé de 99 mètres de long, petit bijou de technologie, mis à l'eau ce vendredi à Cherbourg. Le Suffren, premier d'une série de 6 nouveaux sous-marins nucléaires. On a tout essayé, comme tous les vendredis dans ce journal de 13h. Stéphane Iglesis a testé pour nous le festival musical de Toulouse. La plus longue étape du Tour de France, 230 km de Belfort à Chalon-sur-Saône. Alaphilippe a cédé son maillot jaune pour 6 secondes à l'italien Ciccone. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un passage nuageux traverse le nord.
Oui, et on va retrouver les nuages essentiellement près des frontières du nord cet après-midi avec des averses, parfois un coup de tonnerre, ailleurs des éclaircies, alors très belles en allant vers le sud. Température un petit peu comme hier, 21-29 degrés au nord jusqu'à 33 au sud et même 33 à 37 du Roussillon au Var.
A tout à l'heure pour le bulletin météo complet. Des incidents inacceptables pour Christophe Castaner, on va l'entendre, ce qui s'est passé hier soir à l'issue du match de Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire n'est pas tolérable. Une mère de famille de 42 ans est morte à Montpellier, fauchée par une voiture qui roulait à vive allure. Le conducteur qui fêtait la victoire de l'Algérie a perdu le contrôle de son véhicule, il est monté sur le trottoir, a percuté la mère et son bébé d'un an, dont le pronostic vital est d'ailleurs toujours engagé ce matin. Une jeune fille de 17 ans a par ailleurs été également blessé, les membres inférieurs fracturés. Le conducteur âgé de 21 ans a été placé en garde à vue. 74 personnes au total ont été interpellées dans toute la France après que de nombreuses manifestations de joie ont dégénéré. 20 policiers ont été légèrement blessés. 2 magasins pillés sur les Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce matin, anime avec Romain Bercher.
Le foot, ça n'est pas ça. Le foot, ça n'est pas attaquer les forces de l'ordre. Le foot, ça n'est pas attaquer des devantures de magasins. Et donc, c'est totalement inacceptable. 74 personnes ont été interpellées dans ce cadre-là et seront mises à disposition de la justice. Et j'ai donné des instructions très claires. Dès hier matin, d'ailleurs, pour préparer la suite des matchs de la CAN qui se dérouleront. Et j'ai réuni tous les préfets hier matin pour qu'il y ait une vigilance maximum qui soit mobilisée. Mais je veux, de la façon la plus claire, condamner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Ceux qui se sont livrés à cela méprisent au fond à la fois les valeurs du sport, les valeurs du football, mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire dans ce match. Parce que se comporter ainsi, c'est aussi faire insulte à ce pays. Et je le regrette profondément. Il y aura des sanctions et des moyens renforcés pour que ces comportements soient systématiquement neutralisés et que nous puissions poursuivre les auteurs.
Le préfet de police de Paris, pareillement, dénonce des comportements irresponsables et appelle aussi à des suites judiciaires les plus lourdes possibles. Sur les Champs-Élysées, comme sur le Vieux-Port à Marseille, comme en de nombreuses villes, les supporters algériens ont fêté la qualification de leur équipe demi-finale pour les demi-finales de la CAN qui aura lieu dimanche. Hein, un événement ultra populaire, la CAN sur tout le continent africain et au-delà. Chaque match des Fenech, l'équipe d'Algérie, et particulièrement chacune de leurs victoires, donne lieu à des débordements de joie dans l'Hexagone. Alors Emmanuel Leclerc, les responsables de l'ordre public le savent. Avaient-ils anticipé les événements et qu'ont-ils prévu pour le prochain match?
En tout cas, il y a eu 74 interpellations. Le préfet de police a dit ce matin qu'il y avait un certain nombre conséquent de forces de l'ordre déployées. Et donc, sur ces 74 interpellations, il y en a 44 à Paris et 30 sur l'ensemble de la quinzaine de villes concernées par cet après-match qui a dégénéré par endroits. Il y a en ce moment toujours 70 gardes à vue en cours. Les premières décisions des procureurs sur les suites judiciaires seront normalement prises dans l'après-midi selon nos informations. On sait que 5 grandes villes ont été touchées particulièrement par ces formes de hooliganisme post-match de football. Marseille tout d'abord, effectivement, où il y avait près de 9000 personnes sur le Vieux-Port avec à l'arrivée une dizaine de policiers blessés, mais pas d'arrestation. Montpellier, avec, vous l'avez dit, le drame avec le décès de cette maman renversée par un automobiliste supporter qui a perdu le contrôle de sa voiture. Et puis Tours ou encore Roubaix, où il y a peut-être eu les affrontements les plus durs avec les forces de l'ordre, où plusieurs véhicules ont été incendiés et 14 personnes interpellées par les brigades anti-criminalité mobilisées hier soir. Enfin, Paris, où parmi les gardés à vue, il y a 10 mineurs et plusieurs suspects ont été arrêtés lors de scènes de pillage. 10 magasins en fait au total vandalisés, notamment entre les quartiers de Barbès et Champs-Élysées. Ce matin, le syndicat de police Alliance a dénoncé un certain laxisme dans les consignes données hier soir, réclamant une fermeté équivalente à ce que l'on peut avoir dans d'autres cas.
Et dimanche, contre le Nigeria ?
Alors là, normalement, effectivement, de toute façon, les forces de l'ordre étaient mobilisées puisque, évidemment, ce sera le 14 juillet. Le ministre de l'Intérieur, on l'a entendu en début de journal, a annoncé que des renforts, il y aurait encore plus de policiers mobilisés
que ce qui était
spécifiquement
prévu
pour l'après-match.
Invité de ce journal en ligne avec nous à Nice, Yvan Gasteau, historien, maître de conférence, spécialiste de l'immigration et des rapports avec le sport. Bonjour.
Bonjour.
Alors, y a-t-il une spécificité des supporters algériens qui serait plus expansif que les autres, ou bien ces manifestations de joie qui sont plus visibles que d'autres sont-elles simplement le reflet d'une communauté qui est plus importante en nombre ?
Il y a effectivement le football est une activité, un sport qui met en scène véritablement les questions interculturelles, et il est curieux de voir que la question liée à l'Algérie, la victoire algérienne, vienne se transposer sur le territoire national qui est le fruit d'une histoire longue et ancienne. Et d'une certaine manière, oui, il y a une spécificité algérienne comme une spécificité de l'histoire algérienne. Et on l'a remarqué, les joueurs de l'équipe d'Algérie sont pour la plupart, une grande partie en tout cas, nés en France, et donc c'est une histoire qui touche la France, et les supporters algériens sont autant du côté d'Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi beaucoup en France. Et les débordements de joie sont effectivement à la mesure de l'importance de cette communauté, entre guillemets, c'est-à-dire la communauté, c'est aussi d'enfants français de parents algériens qui évidemment ont une grande sensibilité à cette équipe, et la fête à tout moment, à partir du moment où elle a des résultats. Comme c'est le cas en ce moment.
Mais ces enfants, ce sont des binationaux qui, pour la plupart, n'ont jamais vécu en Algérie. Donc c'est le reflet d'une, c'est un besoin d'affirmer une identité forte.
Je pense que vous avez raison. C'est effectivement cela. C'est justement peut-être parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Algérie qu'il y a cet attachement très particulier à l'équipe nationale de football, parce que le football en soi est un sport qui met en scène les identités, les rend encore plus fortes en quelque sorte, et permet de les exprimer. Et effectivement, à travers des victoires de football, comme ça passionne les Français, ça passionne aussi les Franco-Algériens d'une certaine manière. Et donc à travers le football et les victoires, c'est une manière de s'affirmer, même si on a... Je veux dire même, d'autant plus si on n'a jamais mis les pieds en Algérie, parce que c'est une manière de s'affirmer algérien et d'affirmer sa double appartenance en quelque sorte. Donc finalement, depuis quelques années, hein, depuis 15-20 ans, on a cette mise en scène des victoires algériennes, en tout cas de la sensibilité algérienne à travers les supporters français d'origine algérienne.
Alors est-ce que c'est vraiment un phénomène unique ? Est-ce qu'il y a d'autres communautés, d'autres exemples ? Les Turcs par exemple, eux aussi sont des supporters assez expansifs,
bien
disons.
Sûr. Bien sûr, le football, c'est une histoire de la diversité, c'est une histoire des mobilités à tous les niveaux, à travers les joueurs. Donc oui, d'autres groupes issus de l'immigration, hein, je dirais, ont pu à certains moments mettre en scène leur joie, hein, portugais, turcs, effectivement, population supporters d'équipes africaines, hein, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc ça, c'est pas tout à fait unique du côté de l'Algérie. Ce qui est assez unique, c'est peut-être la tension qu'on y porte, et aussi peut-être les modes d'affirmation, parfois peut-être un peu plus radicaux, qui sont aussi très liés au passif qui existe entre la France et l'Algérie, et peut-être justement au fossé qui se creuse entre les deux parts de ce que peuvent représenter ces supporters, c'est-à-dire à la fois français et algérien, ce qui parfois est difficile à assumer aussi bien en France qu'en Algérie.
Emmanuel Leclerc, une question.
Oui, donc vous signifiez qu'effectivement les affrontements qu'on a pu voir hier avec les forces de l'ordre sont liés à tout ce contexte, bien plus, ou en tout cas que c'est différent du hooliganisme qu'on a pu voir avec les Anglais, et vous le disiez à l'instant avec les Turcs par exemple.
Oui, c'est peut-être une forme de hooliganisme un peu particulière, hein, dans la mesure où effectivement il y a la joie légitime d'exprimer des supporters d'équipe, et on sait que donc finalement là, on l'a vu hier, hein, le match de l'Algérie est un match qui se déroule en français avec beaucoup de joueurs qui parlent français de part et d'autre, d'ailleurs des deux équipes qui s'affrontaient hier, et en même temps effectivement dans la joie qui se manifeste légitimement, il y a aussi parfois des débordements, hein, comme on le voit dans d'autres manifestations, et ça s'est malheureusement produit hier avec une forme de radicalité que le football malheureusement peut engranger à travers ces manifestations de joie.
Un dernier mot, Yvan Gastaud, le Rassemblement National dénonce ce matin l'expression d'un rejet de la France pour le parti de Marine Le Pen. Ce sont des démonstrations de force dont l'objectif est de signifier ostensiblement une présence massive et un rejet de la France. Commentaire ?
Non, je crois que c'est excessif parce que, évidemment, malheureusement, il y a eu des débordements, malheureusement, il y a eu des victimes et c'est déplorable. Mais en même temps, je pense que tous les supporters de l'Algérie en France ne sont pas du tout, loin s'en faut, dans cet état d'esprit. Ils sont gardés par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'une dérive, même si, effectivement, parmi les gens qui expriment leur joie, les supporters qui expriment leur joie, il y a aussi des hooligans algériens. Et on le sait, le football en Algérie, c'est une véritable religion. On pourrait dire, hein. C'est une passion extrêmement populaire, on l'a vu y compris dans les manifestations politiques qui s'y sont déroulées, beaucoup de choses se passent au stade, donc les passions algériennes, ou je dirais même franco-algériennes, s'expriment beaucoup à travers le football, et malheureusement, effectivement, il y a des débordements, bien que ceci reste quand même très minoritaire par rapport à la grande masse de ceux qui supportent et adorent l'équipe d'Algérie.
Yvan Gastaud, maître de conférence à Nice, spécialiste de l'immigration et de ses rapports avec le sport, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Il n'a aucune raison de démissionner, le ministre de la Transition écologique François de Rugy le dit et le répète, les accusations portées contre lui par Mediapart sont fausses. S'il a eu la tentation à l'instant de tout abandonner, il a décidé de ne pas lâcher. D'ailleurs, le Premier ministre ne lui a pas demandé sa démission et le Président de la République le soutient. François de Rugy qui conteste avoir organisé des dîners privés à l'hôtel de Lasset. D'ailleurs, il ne mange pas de homard et le champagne lui fait mal à la tête. Il a remis déjà tous les devis concernant la rénovation de son logement de fonction. Quant au logement social qu'il occupe à Orvault, en banlieue de Nantes, à son corps défendant, c'est à l'agence immobilière qui lui a loué qu'il faut demander des comptes et à sa propriétaire. Bref, un ministre très tendu et très en colère ce matin sur BFM, en colère contre ce qu'il appelle les coupeurs de tête de Mediapart.
Il va y avoir, je vous dis, hein, aujourd'hui, demain, il va encore y avoir d'autres attaques, forcément, puisque maintenant on en est à inventer des choses. Sur Mediapart, il va falloir à un moment donné qu'on dise les choses. Je suis très en colère. Contre les mensonges. Le but, c'est quoi? C'est d'informer le public? Ou c'est de mener en permanence des campagnes contre le gouvernement, contre ceux qui gouvernent d'ailleurs? C'est le fantasme des coupeurs de tête. Et on préfère venir m'attaquer en disant que ma femme, c'est Marie-Antoinette. Parce que c'est ça, la vie de château.
François de Rugy qui dément aussi l'histoire du sèche-cheveux doré à la feuille d'or acheté par son épouse, selon le Parisien, 499 € sèche-cheveux qui n'existe pas, dit-il, c'est n'importe quoi. Et le ministre d'annoncer qu'il portera plainte pour dénonciation calomnieuse contre tout article comportant des mensonges. La meilleure défense, c'est l'attaque, bien sûr, Alexandra Hacoun. Qu'en dit-on du côté de Mediapart, le site d'information en ligne, qui a fait donc de la chasse aux puissances son fonds de commerce, comme l'a clairement souligné François de Rugy?
Alors d'abord, sur le côté coupeur de tête, hein, comme on l'a entendu, eh bien, c'est un revirement, en tout cas, du ministre qui amuse beaucoup Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes à Mediapart.
Il a livré, depuis plusieurs années, une liste impressionnante de tweets en soutien à Mediapart. Alors maintenant que ça le concerne, ça l'intéresse moins et nous traite de coupeurs de tête. Quand on en est à ce niveau d'attaque du messager pour ne pas répondre sur le fond du message et des informations, moi, à part me faire sourire, je vois pas bien ce que ça peut provoquer d'autre.
Maintenant, pour Mediapart, s'en prendre au pouvoir, eh bien, cela s'appelle faire son travail de journaliste.
On a été traité d'officine par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, par Nicolas Sarkozy. On a été mis en cause au moment de nos révélations sur Jérôme Cahuzac par le pouvoir socialiste. Voilà, ça s'appelle un journal, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle l'intranquillité de l'information. On a un gouvernement et un président de la République qui aiment vanter le modèle suédois et le modèle scandinave. Et bien, dans ces pays, et je ne suis pas un coupeur de tête, mais dès le jour 1, M. de Rugy aurait été forcé à la démission.
Quant au côté feuilletonnant des révélations de Mediapart, qu'on lui reproche assez souvent, et bien là aussi, Fabrice Arfi assume pleinement.
Quand on a des masses d'informations importantes, on ne publie pas tout d'un coup, ne serait-ce que pour la compréhension des lecteurs. Et puis parfois, on peut donner le sentiment de feuilletonner. C'est plus précisément le cas dans le cadre de l'affaire de Rugy. Pensez bien qu'on n'allait pas publier dans un seul et même article Monsieur de Rugy, la directrice de cabinet. On fait la différence entre les deux personnes, même si l'une travaille pour l'autre. Toute la presse dans le monde, en fait, publie des articles sur des affaires en cours.
D'ailleurs, le journaliste se garde bien de fermer la porte. D'autres révélations sur François de Rugy pourraient encore être à venir.
Alexandra Hakoun, François de Rugy a reçu le soutien du président de la République et du Premier ministre, qui a juste demandé une inspection des travaux entrepris dans le logement de fonction du ministre, lequel devra rembourser toute dépense non conforme aux règles. C'est la réaction officielle donc de l'exécutif à cette affaire, qui l'embarrasse évidemment, d'autant qu'au sein de la majorité, c'est une musique un peu différente qui se fait entendre. Yael Gauze, pour beaucoup de collègues ministres ou élus La République En Marche, en tout état de cause, tout cela est énormément ravageur.
S'il voulait compter sur ses collègues pour redorer son blason, c'est raté. Les éléments de langage sont plutôt tièdes, voire carrément glaciales, chez le secrétaire d'État Gabriel Attal ce matin sur Inter, qui raconte avoir reçu de nombreux messages d'électeurs outrés, et il les comprend.
C'est sûr, quand on est par ailleurs un jeune engagé en politique pour qui c'est les premières responsabilités politiques électives, ça fout un peu les boules quand même de se dire que ça renvoie à cette image et que ça va alimenter l'idée que finalement, tous les politiques, ils se gavent aux frais du contribuable, alors que c'est pas le cas.
Autre prise de distance, celle de l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, désormais engagé dans la bataille de Paris. Il était ce matin sur France 2, gros malaise. Pour lui, ce feuilleton de Rugy vient remettre une pièce dans la machine à gilets jaunes.
Évidemment que ça donne une image terrible, et évidemment qu'après l'année que nous venons de vivre, on demande des efforts, eh bien, il faut qu'on soit exemplaire à tous les étages. Il y a eu un grand maire de Paris qui s'appelait Bertrand Delanoë. En 2001, il a rendu un logement de fonction du maire de Paris de l'époque, qui était somptueux, et il en a fait une crèche.
Et puis il y a celles et ceux qui râlent en coulisses. À l'Assemblée, le groupe LAREM n'a même pas adopté de position commune. Des ministres qui s'agacent, ceux qui n'invitent jamais leur famille dans les palais. « On sort et je paie le resto », explique l'un d'eux. Enfin, plus largement, un sérieux doute persiste. Quelle sera la crédibilité et la longévité du numéro 2 du gouvernement, maintenu à son poste, mais considérablement fragilisé?
Yael Gauze, rien à voir évidemment, mais au même moment, le gouvernement a choisi de faire un pas de deux sur les retraites. Le chef de l'État et le Premier ministre l'avaient pourtant l'un et l'autre évoqué. Il faudra tôt ou tard inciter les Français à travailler plus, autrement dit à partir un peu plus tard en retraite. C'est l'idée d'un âge d'équilibre qui serait fixé à 64 ans et avant lequel tout départ entraînerait une décote. Des mesures devaient être annoncées en septembre, mais ce ne sera pas le cas. Laurent Kramer, les ajustements restent à faire, mais on attendra la grande réforme du système de retraite qui se mettra en place progressivement jusqu'en 2025.
Le gouvernement temporise un dossier explosif, faire travailler les Français une année de plus dès l'année prochaine, donc pour les générations 1963, scénario poussé jusqu'ici par Bercy pour remplir les caisses de l'État ou encore financer la dépendance, un calcul budgétaire à très court terme, qui aurait écrasé le principe même de la réforme des retraites par points, soulignaient de nombreux économistes. Annoncer une décote ou une accélération du nombre de trimestres nécessaires à la rentrée de septembre après les vacances, avant même l'examen de la réforme au Parlement, revenait à saborder les annonces de Jean-Paul Delevoye jeudi prochain. Accélérer la réforme Touraine et retarder les départs en retraite n'avait de plus aucun avantage sur le long terme avec un système par points et ne faisait que des perdants avant la fin du quinquennat. Le principe d'une décote pour un départ avant 64 ans n'est pourtant pas abandonné, mais sera intégré à une nouvelle concertation à la rentrée et au débat parlementaire du projet de loi retraite, mais seulement après les municipales de 2020.
Une temporisation du gouvernement qui devrait apaiser les syndicats. Laurent Berger l'avait dit en début de semaine, si des mesures d'économie sont prises dès 2020, il ne sera pas difficile d'enclencher une mobilisation. Allez, on en parlait à l'instant, François de Rugy, s'il a été touché, n'a pas été coulé. Contrairement au Suffren, submersible de dernière génération, premier d'une série de 6 sous-marins à propulsion nucléaire, qui viendront renouveler la force de dissuasion française d'ici 2030 pour un coût de 9 milliards au total. Petit bijou technologique quasi indétectable quand il est en opération, 99 mètres de long. Il est mis à l'eau ce vendredi à Cherbourg, en présence du président de la République, chef des armées. Le chantier de ce submersible a commencé en 2007 avec la découpe de la première tôle et son accouchement aujourd'hui avec près de 3 ans de retard, s'il a été compliqué, rend en tout cas très fiers les salariés de Naval Group à Cherbourg, Pierre Coquelin.
C'est tout simplement l'un des produits les plus complexes que l'homme peut réaliser. Un puzzle que Florian, 30 ans, a dû agencer.
Donc on parle de 700 000 équipements, 70 000 appareils fonctionnels, 20 km de tuyauterie, 160 km de câbles. La série Barracuda est la première classe de sous-marin développée entièrement de façon numérique de bout en bout.
Ce sous-marin, c'est une belle bête, sourit David, 51 ans. Il a façonné les tôles de ce géant. Les sous-marins, on a ça dans le sang, dans la famille, depuis son arrière-grand-père.
Le produit réalisé est vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Je suis allé tourner autour l'autre jour, là. C'est un bel ouvrage de Chaudronnier.
Des sous-marins, Serge, 62 ans, on a vu défiler dans l'immense nef du chantier naval.
Le triomphant, le téméraire, le vigilant, le terrible. Et c'est l'insuffrant.
Le Suffren, c'est donc son cinquième. Et il a même repoussé sa retraite pour finir le travail et transmettre son savoir-faire. Un cher bourgeois très fier d'accueillir le président de la République pour ce lancement en grande pompe.
Ce sera le deuxième président que je verrai. Moi, De Gaulle, j'étais un peu petit, entendu redoutable, même si je l'ai aperçu dans sa déesse en passant à Tour-la-Ville. Le président Sarkozy, parce qu'il est venu sur le terrain. Et puis, le président Macron, c'est un honneur de voir un président de la République venir effectivement faire le lancement d'un sous-marin.
Au total, 150 entreprises, prestataires et fournisseurs manchois ont pris part au projet.
Le Suffren doit être livré à la Marine nationale à l'été 2020. Pour la petite histoire, Pierre-André Suffren, c'était un amiral qui s'est illustré face aux Anglais au XVIIIe siècle. Après le sous-marin, les missiles, c'est depuis deux jours la même question en Libye. Comment des missiles français se sont-ils retrouvés entre les mains du maréchal Haftar? 4 missiles de fabrication américaine, mais qui avaient été vendus à la France, ont été découverts près de Tripoli par les forces armées du gouvernement d'Union nationale, lequel a demandé à Paris des explications urgentes. Réponse ce matin de la ministre des Armées, Florence Parly. Ces armes n'ont jamais servi à quelque force locale que ce soit.
Il se trouve que ces missiles ont été mis hors d'usage. Ils étaient donc stockés dans un endroit qui était destiné à ensuite permettre leur destruction. Pour des raisons qui tiennent aux événements qui se déroulent en Libye, ces missiles n'ont pas pu être détruits à temps. Ils n'ont jamais été, et ça je crois que c'est ce qui est important, ils n'ont jamais été transférés à quiconque. Ils n'avaient qu'un seul usage prévu, c'était celui de contribuer à la protection d'éléments français qui faisaient du renseignement dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Donc les propos que l'on peut lire ici ou là sur le fait que ces missiles étaient entre les mains, quels que soient les belligérants d'ailleurs libyennes, sont des propos tout à fait faux.
Florence Parly ce matin sur France Info. En bref, un fils de Latifa Ibn Ziaten violemment agressé hier soir près de Rouen. Il est le frère d'Imad Ibn Ziaten, l'un des militaires tués par Mohamed Merah en 2012 à Toulouse. Sa mère s'est toujours battue depuis avec son association pour la jeunesse et la paix pour faire passer un message de tolérance dans les établissements scolaires. Son domicile avait d'ailleurs été tagué il y a un mois, des tags insultants. Et hier soir, donc, cette agression contre Naoufal Ibn Ziaten, 30 ans, frappé par au moins 3 hommes et placé en observation à l'hôpital pour l'avocat de la famille. Tout ça ne peut pas être une coïncidence. Deux enfants de 4 et 8 ans qui trouvent la mort dans l'incendie de leur maison à Laurière en Haute-Vienne. Seule la mère de famille a pu s'échapper des flammes. L'origine de l'incendie reste indéterminée pour l'instant. Et puis des cas de gastro-entérite qui seraient liés à la consommation de Copa. Après des plaintes de consommateurs, la direction d'Intermarché a procédé au retrait de certains produits de la marque dit Vittorio. Un numéro vert est mis à disposition des consommateurs, le 0800 3x0 175 0800 1175. Le produit concerné, c'est donc de la Copa tranchée ou entière, commercialisée entre le 17 mai et le 8 juillet. Dimanche 14 juillet, ses baloches, ses feux d'artifice, le plus souvent dès demain soir d'ailleurs, et puis son défilé le matin, défilé militaire essentiellement, mais pas seulement, puisqu'une parade réunit aussi traditionnellement des civils, du SAMU par exemple, ou bien du service civique. Ils sont 140 000 jeunes engagés volontairement dans les associations, principalement pour 6 à 12 mois, jeunes de 16 à 25 ans, dont une quinzaine ont été sélectionnés pour se présenter dimanche devant la tribune officielle. Ils étaient ce matin comme depuis le début de la semaine en répétition sur les Champs-Élysées. Reportage Sébastien Sabiron.
Ne tendez pas trop, faut pas bien sûr que le drapeau touche le sol.
Un immense drapeau tricolore tendu face à la tribune présidentielle. Instant solennel et marseillaise entonnée de bon cœur par Mohamed, 22 ans.
Pour moi, c'est grande chose en fait. C'est incroyable, vraiment.
Réfugié en cours de régularisation, Mohamed a fui le Soudan en 2016. Désormais volontaire dans une association de recyclage, le service civique est pour lui un accélérateur d'intégration.
C'était compliqué pour moi de quitter mon pays. On n'avait pas les papiers. C'était difficile. Et maintenant, c'est mieux. J'ai postulé dans quelques universités ici. Je me connais mieux.
Dounia aussi a appris à mieux se connaître. En décrochage scolaire, la jeune fille de 17 ans est en service civique depuis 7 mois au sein d'associations comme les Restos du Cœur.
J'acceptais pas les clichés. J'allais au conflit directement. Et là, en fait, j'ai appris à prendre sur moi. Et j'ai vraiment grandi. J'ai côtoyé des gens qui étaient vraiment dans le besoin. J'ai rencontré des jeunes qui étaient vraiment en décrochage scolaire aussi, qui se faisaient virer de leur collège. Même si j'ai que 17 ans à l'heure d'aujourd'hui, je peux aider. Tu peux tendre ma main.
Rendez-nous fiers.
Dimanche, Dounia veut faire honneur à son drapeau, à son pays et tourner le dos à son passé.
J'ai vraiment fait n'importe quoi, je traînais dehors, je montais sur les bâtiments d'Aubervilliers, je voyais la Tour Eiffel là-bas. Et de me dire que là, en gros, sur les Champs-Élysées, à côté de la Tour Eiffel, c'est vraiment énorme comme émotion.
Et pour compléter ce tableau républicain, Dounia rêve de s'engager un jour dans l'armée de terre.
Sébastien Sabiron sur les Champs-Élysées. Le défilé, bien sûr, c'est dimanche matin. Allez, j'ai testé pour vous, comme tous les vendredis dans ce journal Petits Échos de la vie quotidienne. Aujourd'hui, les vacances de ceux qui ne partent pas en vacances. Les communes font en sorte d'animer leur été. Illustration à Toulouse avec le festival musical d'été, pas cher et même souvent gratuit. Festival qu'a testé Stéphane Iglesis.
Toulouse d'été, c'est un festival qui n'a pas la grosse tête et qui fait des miracles avec un budget serré. Jazz, musique classique, avec le festival notamment de Radio France Occitanie, flamenco, musique du monde. Les spectateurs découvrent la musique dans des lieux toulousains en plus qui méritent le détour.
Je pense que c'est une excellente initiative. La variété de la programmation et le fait que ça soit qu'une partie de la programmation soit gratuite, donc très accessible, et en plus accessible dans des lieux vraiment remarquables comme le Métrodôme, mais aussi par exemple la chapelle des Carmélites ou Saint-Pierre des Cuisines.
Bernadette trouve ça chouette, mais avec un petit bémol.
C'est un peu toujours le même public, hein, néanmoins, mais bon, j'en fais partie. Hein.
Quant à Anne, elle prendrait bien un petit supplément gratuit ou payant au mois d'août.
C'est très court, ça serait bien que ce soit du 1er juillet au 28 août, parce que les vacances, c'est en août.
Alain Lacroix, le directeur du festival et la mairie de Toulouse, souhaitent des concerts peu chers ou gratuits.
Ce soir, pour l'Orchestre du Capitole, c'est un concert gratuit. Le marathon piano, sur 4 concerts, on en a 3 gratuits. Les concerts au patio les mardis sont des concerts gratuits. Donc voilà, il n'y a pas que des concerts payants. Et les concerts payants, c'est moins de 10 euros. Quoi. Donc voilà. Ce qui est très intéressant à Toulouse d'été, c'est qu'on a justement cette diversité des publics. À la fois les Toulousains qui ne partent pas en vacances et les touristes qui passent à Toulouse.
Dommage donc que tout se termine fin juillet. La Cinémathèque de Toulouse a mis 10 ans pour que son festival cinéma en plein air aille jusqu'à fin août. Pour ce festival musical qui fait carton plein, encore un petit effort donc. Toulouse, Stéphane Iglesis, France Inter.
Avec de la grande musique, donc, pour ce festival musical d'été à Toulouse, le Tour de France, la plus longue étape de cette édition 2019 de Belfort à Chalon-sur-Saône, 230 km, une étape a priori destinée aux sprinteurs. Alaphilippe a cédé son maillot jaune pour 6 petites secondes à l'Italien Ciccone. Xavier Monferrand, les coureurs sont partis un peu plus tôt ce matin, depuis près de 2 heures déjà.
Ouais, effectivement, Yves, bonjour, bienvenue sur la route du Tour et dans le Jura. Nous sommes encore en Franche-Comté, dans le Doubs, pardon, encore en Franche-Comté. On va arriver bientôt dans le Jura avant d'arriver dans l'après-midi en Saône-et-Loire. Pour l'instant, 2 coureurs sont sortis du peloton dès les premiers kilomètres, dès les premiers mètres même. C'est 2 coureurs français. Il s'agit de Stéphane Rossetto de l'équipe Cofidis et Johan Ofredo, le français de l'équipe Wanty Group Gobert. Deux hommes qu'on a l'habitude de voir à l'avant et qu'on a eu l'habitude de voir à l'avant depuis le début de ce Tour de France. À noter également une chute dans le peloton tout à l'heure en début de course pour 2 coureurs importants puisqu'il s'agit d'un des leaders de Education First, TJ Van Garderen, l'Américain, mais aussi l'ancien maillot jaune du Tour, du début du Tour, Mike Tennissen de l'équipe néerlandaise Jumbo Visma. Pour l'instant donc 2 coureurs en tête et ils ont un écart qui se réduit. Ils ont compté jusqu'à 5,40 et maintenant ils n'ont plus que 4 minutes d'avance.
Xavier Monferrand sur la route du Tour avec Alexandra Bergel, le temps.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Encore une journée agréable, Élodie Calac.
Entre le Pas-de-Calais et l'Alsace, pas mal de nuages, quelques averses et parfois un coup de tonnerre. Ailleurs, c'est partagé entre nuages et soleil. Le soleil prend le dessus près de la Manche. Il domine sur le sud-ouest, la Méditerranée, la vallée du Rhône. Le vent est parfois marqué entre le Roussillon, le Var et la Corse. Comptez 21 degrés au Havre, 23 à Lille, à Saint-Brieuc, 27 à Paris, Belfort, Limoges, 29 à Bordeaux, 31 degrés à Lyon, Bastia, 32 à Toulouse, 34 à Marseille et 37 à Nîmes. Le week-end s'annonce agréable, souvent bien ensoleillé. Un peu plus de nuages entre les frontières du nord et le flanc est avec quelques averses et des températures un peu moins élevées.